Bonjour à tous, je vois que c'est ça le comble, c'est un plaisir de voir autant de monde et c'est un plaisir et une chance pour moi d'animer cette rencontre intitulée Une autre partition, avec donc Renan Luce et Mathias Malzieux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Renan Luce, vous êtes auteur, compositeur, interprète, révélé dès votre premier disque Repenti en 2006 avec le single que tous les amateurs de chansons françaises connaissent, La Lettre. Et depuis quelques semaines, vous êtes désormais écrivain, avec une première expérience, un récit autobiographique qui s'appelle Une famille inquiète, l'histoire d'un petit dernier, d'une fratrie, d'une famille où les choses ne sont pas faciles, mais en même temps, il y a beaucoup de poésie. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Mathias Malzieux, vous aussi musicien, chanteur du groupe Dionysos, chanteur en solo également. Vous êtes aussi scénariste, réalisateur. Et puis, depuis un petit moment déjà quand même, écrivain, romancier, avec des succès comme La mécanique du cœur, Le journal d'un vampire en pyjama, Une sirène à Paris, il y en a plein, et avec beaucoup de poésie aussi, d'imagination. Et vous avez publié cette année Le guerrier de porcelaine, qui est un récit un peu plus intime, puisque là, vous vous replongez dans l'enfance de votre père, aux dernières heures de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, j'ai cru voir qu'il y avait un disque également... avec Daria Nelson, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Avec plaisir, merci.
Je voudrais qu'on commence par vous, Mathias Malzieux, puisque ça fait plus longtemps que vous faites ça, alors on va pas jeter Renan Luce comme ça dans la fauve au lion.
C'est gentil.
Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment l'écriture littéraire, justement, elle s'est imposée à vous, quand et comment, à un moment, vous avez décidé d'écrire d'une autre manière, d'écrire des livres.
Ouais, c'est les chansons. En fait, les chansons, c'est... ça, je pense qu'on a ça en commun... avec Renan, c'est qu'on raconte des histoires. C'est comme si c'était les chansons de Renan. Moi, je trouve qu'elles ont ce côté mini court-métrage. C'est pour ça que chaque fois, les clips sont super. C'est vraiment, il y a une atmosphère, il y a quelque chose. Donc, quand on commence à goûter à ça, eh bien, il y a toujours un moment où la question, comme quand on fait un voyage, on se dit, ah, et si on allait un peu plus loin ou si on partait un petit peu plus longtemps. Alors après, ce n'est pas les mêmes muscles créatifs qui fonctionnent. Je dirais que la chanson, c'est un 500 mètres. Il faut avoir le sens de la formule, il faut partir fort, arriver, accélérer au milieu et foncer à la fin, presque. En tout cas, sur la formule, même si on fait une chanson, une balade ou peu importe. Alors que le roman, c'est vraiment un marathon. Si on part comme une chanson, on explose au bout de 3 km. Et en même temps, une chanson, si on part comme un marathon, on n'a pas assez raconté de choses tout de suite. Donc, c'est vraiment pas du tout le même muscle créatif, mais c'est le même état d'esprit, en tout cas me concernant. C'est l'envie de raconter une histoire. Moi, j'aime qu'on me raconte des histoires. Je crois que ça nous sauve, ça nous met une distance avec le réel qui nous permet d'avoir du recul, d'avoir un autre point de vue. Vous disiez tout à l'heure que je réalisais des films. Réaliser un film, qu'est-ce que c'est ? C'est choisir notamment où est-ce qu'on met la caméra. Et voilà, quand on fait une chanson, même sur la même thématique qu'un livre, on en parlait avec Renan juste avant, il me disait qu'il était en concert demain dans le coin, et qu'il avait intégré des passages de son livre avec des chansons, eh ben, il change la caméra d'angle. Et à chaque fois qu'on change la caméra d'angle, eh ben, des fois on peut se tromper, mais à chaque fois il y a une virginité nouvelle, il y a un jeu qui se crée, et ça pour moi c'est une drogue dure et douce que j'ai envie de consommer pour toujours.
Mais c'est ça, effectivement ça saute aux yeux avec vos œuvres différentes, c'est que, et peut-être que justement ça va venir avec vous Renan Luce, mais c'est... une sorte d'interpénétration entre tout ce que vous faites, c'est-à-dire les films, les clips même, les chansons, tous racontent des histoires, parfois ils racontent la même histoire. En fait, au final, vous écrivez, point, vous écrivez des histoires, peu importe le format.
Alors, pas peu importe, parce qu'au contraire, ils m'importent tous, mais, et que je ne joue pas de la même manière à chaque fois. Mais ouais, c'est un désir, c'est un... Bien sûr, on peut faire semblant d'être un intellectuel, mais je crois qu'on est juste très connecté à nos enfants intérieurs. Donc on a envie de raconter des histoires, on a envie de jouer aux cow-boys et aux indiens, on a envie de se déguiser, et des fois se déguiser, comme dans la Commedia dell'arte, permet de se déguiser en soi. Et les personnages, que ce soit dans des chansons ou dans les livres, permettent de se révéler et de communiquer... cette télépathie bizarre que c'est d'avoir des cousins télépathiques qui viennent vous voir au concert, qui connaissent vos paroles ou qui achètent vos livres. C'est toujours très étrange, je ne m'en blase jamais d'avoir des gens qui sont tout contents de venir vous rencontrer, qui ont votre livre. Ah ben c'est parce que j'ai lu celui-là et tout machin. En fait, c'est hyper émouvant parce que nous, on est tout seul dans notre truc avec un tas de doutes énormes. Et heureusement, hein, c'est absolument crucial, hein, le doute pour écrire. C'est juste le dosage du doute qui est important. S'il y en a trop, après, on fait plus rien. Et donc, ben voilà, on continue à fabriquer cette matière. Et tant qu'on est voilà, en liberté, et pour vivre ça, on a l'impression que ouais, moi, j'ai l'impression de doubler mon temps de vie en écrivant.
Et vous, Renan Luce, est-ce qu'il y a eu un moment de bascule, justement, un moment où vous vous êtes dit, tiens, peut-être que je suis un peu contraint par les histoires que je raconte dans mes chansons, j'ai envie de raconter de plus grandes histoires, j'ai envie de raconter autrement?
Mais je crois que la bascule, elle s'est faite pour moi d'abord en chanson pendant longtemps. Il est vrai que l'imaginaire avait une part cruciale dans mon écriture. J'ai beaucoup inventé d'histoires, des personnages, des situations que je voulais les plus loufoques possibles et les plus éloignées possibles de mon quotidien. Et je m'épanouissais dans cette forme d'écriture. Et petit à petit, en écrivant des chansons, j'ai commencé à chercher comment me décrire aussi, peut-être de manière un peu plus frontale. Donc il y a déjà eu ce petit revirement de passer de l'imaginaire au plus personnel. Et pour faire ce dernier pas vers le récit, je crois qu'il a fallu des événements, en fait, des événements suffisamment forts et bouleversants pour moi pour avoir envie de les figer dans un premier temps. Vraiment d'écrire des scènes en me disant je pourrais m'en souvenir, et à partir du moment où ça a été fait, en particulier la scène qui ouvre mon récit, à partir du moment où voilà, j'avais cette décontraction de me dire bon voilà, je vois d'où je suis parti, c'est de cette émotion-là. C'était plus naturel de vouloir tirer un peu le fil, revenir dans le passé, essayer de comprendre quelles sont les émotions qui m'ont traversé moi et ma famille. Qu'est-ce qui fait que je ressens ça aujourd'hui, un mélange de douleur et d'amour pour ma famille, et comment le décrire en récit. Et j'ai choisi de le faire d'une manière vraiment très directe, assez frontale. Ouais.
Il y a eu des doutes, des hésitations au moment de l'écriture pour réellement se jeter à l'eau, surtout quand on aborde une matière familiale qui n'est pas une matière fictionnelle pure à proprement parler.
Étant donné effectivement que le narrateur, c'est moi-même, à la première personne. Il y a eu le doute principal a été celui qui est arrivé quand j'en ai parlé à ma propre famille, quand je leur ai dit je suis en train d'écrire un livre. Et là, j'ai eu quelques semaines d'impossibilité totale d'écrire, parce que maintenant que je savais qu'il y avait cette attente, que je sentais un peu leur présence à mes côtés, c'était plus difficile. Il m'a fallu passer un peu cette étape-là et me dire que j'avais le droit de passer ce temps tout seul avec moi-même, sans filtre. Je pourrais éventuellement dans un second temps choisir tel ou tel passage, mais j'ai eu à cœur de vraiment ne rien m'interdire, ouais. Même les passages les plus douloureux. Mais aussi, ce qui m'a aussi conforté dans le fait que j'allais arriver au bout de l'entreprise, c'est que j'ai compris que c'était un livre sur la gratitude aussi, pas du tout un livre à charge. J'avais à cœur d'exprimer beaucoup d'amour pour ma famille. Donc ça m'a rassuré sur le fait que je pouvais aussi aborder des événements plus sombres, éventuellement écorner un peu certains membres de ma famille. Et je me suis aussi pas épargné du tout. Donc j'avais l'impression voilà, de faire une œuvre d'honnêteté, en tout cas, qui me permettait d'aller un peu où je voulais.
Et Mathias Malzieu parlait d'un muscle différent. Est-ce que vous avez éprouvé ça, justement, de se dire, OK, c'est une petite musique un peu différente, il faut que je trouve ma petite musique, mais cette fois plus littéraire, que de chercher peut-être la parole qui va bien dans la chanson, dans un...
Oui, il a fallu que je me rassure en me disant que que je pouvais m'agripper à un souffle dans lequel je me sentais bien. Ça a été peut-être dès les premières pages ou le premier chapitre, de me dire, OK, ce ton-là, je sens que je vais pouvoir le garder sur toute l'écriture du livre. Et aussi, peut-être la musique dont vous parlez, c'est un peu... Ce sont des plages musicales, quoi. Je trouve d'écrire un récit plus long, beaucoup plus long qu'une chanson, c'est trouver un rythme qui va s'installer, éventuellement se ralentir, repartir sur une émotion, la calmer un peu avec des descriptions. Enfin, j'ai eu à cœur un peu d'essayer de trouver ce rythme-là un peu au long cours.
D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher, je vais peut-être la poser à vous, Mathias Malzieu, mais quand on est musicien, chanteur, on parlait de petite musique, mais est-ce qu'on écrit... En écoutant de la musique, est-ce qu'on a envie d'une bonne son dans notre tête? Est-ce que c'est quelque chose auquel on se raccroche de notre expérience passée de chanteur?
Alors, pour trouver des idées, oui. C'est-à-dire que être dans un café ou au milieu d'un bruit vivant et tout ça, oui. Mais quand je suis vraiment dans la rédaction, je peux pas du tout. Mais même pas de la musique instrumentale. Mais il y en a, je sais qu'il y en a. Je sais que j'en ai parlé avec Bernard Werber il y a pas longtemps. Lui, il aime bien se mettre de la musique, pas de la musique avec des paroles qui viendraient le déconcentrer, mais il aime en fait l'atmosphère. Après, il écoute pas, mais ça le met dans un truc. Je peux comprendre. Moi, j'ai vraiment besoin du silence. Quand je rédige vraiment, que je suis au moment de sculptation, j'ai vraiment besoin de silence. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a, c'est bien aussi qu'il y ait le côté tout terrain, de pouvoir écrire un peu partout. Alors noter des idées, développer des trucs, ça je le fais vraiment bien partout, mais sinon j'ai besoin de silence. Par contre, là où la musique revient, c'est qu'il y a certains passages, pas tout le livre, mais il y a des passages, par exemple là, la charrette de foin quand il traverse la ligne de démarcation, où en fait je les lis à haute voix et je les enregistre pour voir comment ils sonnent quand je suis content du sens. Et en fait, ça me fait toujours corriger des trucs de manière intéressante. Mais après, il n'y a pas de règle. Il y en a qui font ça sur tous leurs livres, il n'y en a pas du tout. C'est pas il faut faire comme ça. C'est juste parce que vous me posez la question à moi. Et il y a des passages où c'est un peu épique, où il y a une rythmique qui se met en route, où j'aime bien sentir un peu le son. Et ça ne suffit pas pour moi de le dire. Il faut que j'ai le recul de l'entendre lu par moi ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais bon, comme je veux pas à chaque fois aller emmerder tout le monde. Bon, vous voulez me lire mon passage là. Donc c'est souvent moi qui le fais, mais c'est pas à longueur de temps, mais j'aime bien cette sensation, ça me donne un recul autre. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais mes livres lus, mes livres audio, à chaque fois j'ai envie de changer des trucs. À chaque fois.
Et vous, Renan Luce, c'est quelle habitude vous avez développée avec ça ? Est-ce que vous avez des petits rituels déjà d'écrivain alors que c'est votre premier livre ?
Alors non, j'en suis pas encore là. Je sais que je suis quelqu'un qui rumine beaucoup dans mon coin. Moi, je prends très peu de notes. Je suis admiratif de ceux qui ont des carnets remplis d'idées. Moi, même sur mon téléphone, j'ai pas beaucoup, plein de mémos. Je rumine. Jusqu'à l'étourdissement presque. J'ai une idée que je tourne en boucle dans ma tête. Quand vraiment elle m'obsède trop, je la travaille, quoi. Je la mets sur le papier ou je la mets en chanson. Enfin, mais je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de notes. Il m'est arrivé par contre aussi de m'enregistrer pour ce récit-là, pour entendre justement cette musique-là, essayer peut-être m'imaginer ce que les gens, quelle voix ils entendaient, est-ce qu'il y en avait vraiment une, est-ce qu'elle était sincère, enfin, j'ai eu besoin, enfin je ne l'ai pas beaucoup fait, mais par certains passages je me suis enregistré aussi, peut-être un réflexe de chanteur, je ne sais pas.
Mais en fait tu fais la même chose que si tu prenais des notes, tu prends des notes dans ta tête.
Oui, oui, c'est certainement ça.
Tu les retiens, c'est...
C'est fatigant parfois.
C'est fatigant, ouais.
Ah, ça m'épuise.
Et c'est Amélie Nothomb, moi, qui racontait l'autre jour, qui disait que elle, en fait, quand elle écrivait, elle écrivait à la main, et elle m'a dit, il n'y a pas de rature, parce que les ratures, je les fais avant dans ma tête.
Pas donné à tout le monde.
Elle est un peu impressionnante aussi.
C'est sûr.
J'aimerais qu'on plonge au cœur de vos deux livres. Renan Luce, quelle histoire vous vouliez raconter avec ce livre? Qu'est-ce que vous aviez envie de dire? Quel était le propos au départ qui vous a, au moment de vous lancer dans l'écriture?
J'avais envie de faire une rencontre, en fait, une rencontre avec une famille qui est certes la mienne, mais que j'avais peut-être cette impression d'un flou général quand j'évoque en moi-même ma famille. Évidemment, je vois des personnes, des parents, un frère, une sœur, mais en même temps, tout ça entouré d'une espèce de halo un peu gris, un peu sombre, et avec lequel j'avais un certain inconfort, en fait, d'y penser. Que je pouvais mettre des mots sur cet inconfort, ça pouvait être soit de la tristesse, de l'inquiétude, de l'incompréhension, de l'exaspération, plutôt des choses un peu négatives. Et paradoxalement, tout en me disant, je suis chanceux, j'ai une famille proche, très aimante. Donc il y avait cette incohérence d'émotions un peu difficiles et d'une enveloppe jolie, celle de la famille. Et c'est cette opposition qui m'intriguait un peu. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de très intérieur dans ma réflexion. J'ai besoin de sortir les choses pour les comprendre. Le simple fait d'y penser ne me permettait pas d'aller au plus profond de ce que je ressentais. D'où peut-être cette démarche.
Est-ce qu'il y avait aussi, j'ai senti dans votre livre, un peu une exploration de qu'est-ce que c'est la place du petit dernier dans une famille, comment on trouve sa place, justement, même en y réfléchissant à rebours, mais quelle est la place du petit dernier? On arrive dans quelque chose qui est déjà peut-être fait?
Oui, y a cette réflexion-là aussi. En fait, il y a la réflexion de savoir quelle est la place de chacun, parce que celle du petit dernier, elle est particulière, mais celle du milieu aussi, de la grande sœur avec son handicap également, de mes parents et des sacrifices qu'ils ont faits, des inquiétudes qu'ils ont connues. Chacun a une place qui lui a été quand même un peu attribuée par la vie, par les événements, par des choix aussi, mais quand même c'est souvent à son insu. Et c'est ça qui donne peut-être la complexité d'une famille et l'inconfort dans lequel on peut parfois se trouver, parce que c'est pas forcément une place qu'on a choisie, il faut faire avec, malgré qu'on ait parfois envie d'aller goûter à d'autres émotions, à d'autres, d'autres visions, d'autres voyages qu'on aimerait faire. Mais non, on a quand même déjà un voyage qui est écrit, c'est celui de notre famille qui serpente au milieu de plein d'événements.
Le handicap de votre sœur est abordé dans le livre. C'est une question que vous traitez avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de poésie, mais aussi avec beaucoup de réalisme, mais c'est quelque chose que vous n'avez jamais vraiment abordé dans vos chansons. C'est pas un sujet que vous aviez eu envie d'explorer. Est-ce que la place de ce sujet, peut-être un peu plus complexe, etc., était justement dans le livre, dans la littérature?
Force est de constater que c'est cette faille-là, que cette émotion-là a trouvé pour ressortir. Je sais que je me suis déjà posé la question en me disant, comme c'est mon métier de faire des chansons, de me dire, un sujet quand même que je pourrais aborder, le handicap d'une manière générale, j'aurais pu le faire de plein de manières, de manière très frontale ou très poétique, mais c'est pas venu, peut-être que parce que c'est un sujet qu'on n'abordait pas trop dans ma famille, et donc qui est aussi devenu pour moi quelque chose d'un peu caché, un peu, pas devant moi, quoi, donc... Je pense que j'avais peut-être d'abord besoin de faire cette étape très frontale d'écrire cette histoire-là. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais trouver d'autres chemins pour l'aborder de manière qui colle mieux avec une chanson, c'est-à-dire peut-être plus poétique et plus, en me permettant de l'abstraction, des raccourcis, tout ce qu'impose la chanson.
Justement, c'est la scène d'introduction où on voit que peut-être pour la première fois, votre famille en parle de manière assez directe, frontale. Est-ce que ça, c'est une des scènes qui vous a permis de dire « Ok, j'ai le droit de le raconter dans un livre », parce que dévoiler ça dans un livre, l'histoire d'une famille qui justement est faite de non-dits, il y a un côté « papa, maman, je vais raconter notre histoire », alors que même nous, on a un peu de mal à en parler.
Cette scène d'ouverture, où effectivement, je la décris vite fait, c'est un dîner où on aborde, pas pour la première fois, mais c'est effectivement de manière assez directe, le handicap de ma sœur et les questions qu'elle peut se poser. Une scène qu'on a vécue, toute la famille, de manière assez bouleversée. Je pense que si cette scène n'avait pas eu lieu, j'aurais pas pu écrire ce livre, je me serais pas senti la légitimité, le droit de le faire. Le fait qu'on ait commencé à l'aborder, il y avait déjà une porte un peu ouverte. Je trouve que ça aurait été peut-être un peu cruel pour mes parents de découvrir comme ça mon point de vue sur quelque chose qu'on n'avait même pas encore abordé tous ensemble. Donc c'est aussi un cadeau que ma famille m'a fait en acceptant, parce que c'est moi qui ai un peu mis les choses sur le tapis, parce que ça faisait longtemps que ça me travaillait, et le fait qu'ils aient accepté qu'on en parle m'a permis de à mon tour pouvoir décrire mes émotions.
Mathias Malzieu, vous aussi vous avez abordé la question de la maladie dans vos livres, et est-ce que la littérature c'est aussi un moyen de... Alors peut-être pas de soigner, mais en tout cas d'aborder des choses et de se faire du bien, ou en tout cas de se faire du mal pour ensuite se faire du bien.
C'est pas un... Comment dire ? C'est un outil de recul. C'est par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en racontant une histoire, on le transforme déjà en autre chose. Même quand on est, même si on fait pas un traitement fantastique, même si on est sur un traitement réel, on est encore, comme dans ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur une manière de cadrer, une manière de choisir le dîner dont tu parles, même de ta façon, ou si c'était tu étais assis à un autre endroit, ou si tu étais d'une autre humeur, il y a mille façons de le raconter, qui pourraient être vraies ou fausses, justes ou pas. Donc ce qui est passionnant avec la littérature, c'est que ça permet ce recul. Il y a la possibilité de la poésie dans les filtres, dans le choix des filtres comme une pellicule ou comme un qu'on mettrait sur un qu'on choisirait pour une caméra. Il y a l'humour, il y a la poésie, Et ça, c'est merveilleux. Et c'est merveilleux parce que ça n'amène absolument aucun espoir. C'est-à-dire que l'espoir, c'est demander quelque chose à l'avenir. Comme si, en fait, ah ben moi, je vais écrire, alors je veux que ça se passe mieux. Parce que moi, j'ai travaillé, j'ai écrit. Comme si on allait faire une psychanalyse ou un truc comme ça. C'est très bien, mais c'est autre chose. Là, en fait, c'est seulement de l'espérance. C'est-à-dire que dans le moment où on le fait, et en plus, des fois, télépathiquement, ça fait un écho chez les gens qui nous lisent. Alors ça, c'est la bouteille à la mer géniale de quand on fait un livre et qu'il y a des gens que ça touche. Bon. Mais même pour soi, au moment où on le fait, en fait, si on ne tombe pas dans la victimisation, parce que alors là, tous les faits s'annulent, on revit le réel de la même manière et même on augmente l'opacité de l'ombre. Mais si on arrive en fait à décaler un petit peu avec l'humour, la poésie ou une forme de réalisme, en tout cas ce pas de côté qu'est la littérature, alors ça a un effet d'espérance sur le moment. Et rien que ça, c'est ultra précieux. Et alors en plus, il y a le cadeau en plus, qu'il y a des gens à qui ça fait du bien. C'est formidable. Mais je crois que commencer un livre en se disant, peut-être qu'il y en a qui y arrivent, mais moi en tout cas j'en suis incapable, en se disant, moi je vais écrire sur tel sujet et ça va aider les gens. Je ne pense pas que ça soit la bonne. Je pense qu'il vaut mieux essayer de raconter son histoire humblement, avec le plus de sincérité possible, et après ça touchera ou ça ne touchera pas. Mais commencer à écrire le guide du retard, de la maladie, du rapport de machin, du truc, et du... ça c'est plus... En plus c'est un tout... ça pourrait être un tout petit peu prétentieux. On peut avoir envie d'aider. Ouais. Mais penser qu'on va aider, ça c'est une bonne chose, c'est de l'intention, c'est du désir. Mais penser qu'en faisant telle chose, en disant telle chose, on va aider telle personne, personnellement, j'y crois pas. En tout cas, moi, j'en suis pas capable.
Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cet épisode de l'enfance de votre père ? Comment il est né, ce livre ?
Bah, déjà, il est né parce que moi, j'étais malade quand il a commencé et que j'avais une première béquille fragile, c'était la Coupe du Monde 2014. C'est-à-dire que le parler d'une transfusion et d'un énième traitement qui ne marchait pas. Donc j'étais greffé de la moelle osseuse, donc c'est 2 ans compliqués, dont 11 semaines de chambre stérile. Et quand mon père venait, en fait, il y avait un l'ordre des choses qui était bousculé, c'est-à-dire que j'avais l'impression de devenir son père. Et lui, voilà, malgré ses 75 ans à l'époque, ben, il était comme mon fils. Et du coup, en fait, je me suis dit, ben, raconte-moi, on parlait du foot, mais après ça s'épuisait un peu. J'ai dit, ben, raconte-moi... quand tu étais petit pendant la guerre, parce qu'il y avait déjà eu des repas de famille où il parlait qu'il avait traversé la ligne de démarcation caché dans une charrette de foin et que son oncle Émile, il était amoureux de la voisine et qu'il écrivait des poèmes et qu'en même temps, la tante Louise, elle était hyper bigote et qu'il l'aimait bien, mais bon, quand même, il s'ennuyait un peu avec elle. Et puis qu'il y avait des cigognes sur la cheminée, tout ça. Et il racontait ça jamais justement en se victimisant. C'était toujours l'impression qu'il me racontait un western. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait là un terreau, quelque chose de dramaturgique absolument génial. Mais je me disais ça peut-être parce que c'est l'histoire de mon père, alors ça me touche plus que les autres. Et puis là, en fait, avant même de savoir si j'allais en faire un livre, j'ai commencé à lui demander de me raconter. Et comme ça m'a tellement plu, là pour le coup, j'ai pris des notes. Parce que c'était pas mon process à moi. Il y avait un mélange de son process à lui. Moi, je prends pas beaucoup de notes. Je suis un peu comme toi. J'en fais un peu. Je peux noter des idées, mais j'ai pas des tas de dossiers, de machin. Là, oui. Là, j'ai documenté parce qu'il y avait la dimension de son. C'était une console de son, hein, comme on fait avec des potards. J'avais ma sensation, mon style, les souvenirs de mon père, les souvenirs de souvenirs de mon père, interprétés par lui maintenant, et le contexte historique. Donc, il fallait que je fasse un mix avec tout ça. Donc là, j'avais besoin d'être assez clair avec tout ça. Et quand j'ai vu que ça en fait, elle est bien, votre question, parce qu'elle est juste après celle d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, juste le fait d'en parler, on ne parlait pas de ma maladie, mais on parlait d'un truc dur, mais dans lequel il s'était sorti. En fait, ça créait une espèce de dynamique qui n'avait absolument rien à voir avec le déni. C'était de la complicité. Et ça repluguait le parent-enfant dans le bon ordre. Donc ça m'a stimulé énormément. Ensuite, finalement, j'ai dû faire une greffe, c'était pendant la première hospitalisation. Donc j'ai lâché ce livre pour continuer le journal que j'écrivais, qui s'appelle « Journal d'un vampire en pyjama », sorti en 2016. Puis après, quand j'ai été guéri, eh ben, j'ai eu envie de balle neuve, comme on dit au tennis, quoi. Donc j'ai fait une sirène à Paris, j'avais besoin d'un conte, de me réenchanter Paris après les attentats, etc. Pas de retourner dans la guerre tout de suite. Et ensuite, il a fallu que je retombe amoureux et que la demoiselle en question, je lui raconte cette histoire et qu'elle rencontre mon père. Elle m'a dit, mais c'est hyper important que tu écrives ce livre. Et là, je me suis senti des super pouvoirs d'écrivain amoureux et de fils et de papa et de tout ça. Et là, j'ai repris ce livre avec un autre angle. Mais c'est un livre qui est resté dans un tiroir pendant 5 ans.
Avec une autre manette, si je peux me permettre, c'est celle du romancier de se dire je raconterais bien l'histoire un tout petit peu différemment, je rajouterais bien un petit peu de...
C'est pour ça que c'est un roman. Si j'avais seulement documenté son souvenir, j'avais une nouvelle de 20 pages à peu près. Il saurait plus, mais j'avais envie d'ampleur de plus. Et puis c'était des graines. Il m'a donné des graines parce que même les graines qu'il m'a donné, c'est des graines de justesse dans son ressenti. Mais tout n'est pas vrai parce qu'on s'est rendu compte de plein de choses. Pour lui, par exemple, un truc qui est très marquant et qui a été très émouvant, c'est que bon, moi j'ai été sauvé par du sang allemand. Et en fait, sa mère est née allemande parce qu'elle est née avant la Première Guerre mondiale. Donc par rapport aux identitarismes de tous bords qu'on traverse aujourd'hui, c'était assez joli. Mais lui, il me dit « Ah non, non, mais elle n'est pas née allemande, ma mère. » Je me dis « Papa, elle est née en Lorraine avant la Première Guerre mondiale. » C'était allemand. Non, elle n'était pas allemande. Donc j'ai mis dans le livre « Née en territoire allemand. » Mais on a trouvé les papiers, t'es bien allemande. Mais lui, c'était pas possible. Pourtant, c'est quelqu'un qui m'a éduqué dans un universalisme, dans un antiracisme joyeux, dans un rapport à la différence extrêmement serein, mais c'est son traumatisme originel, et c'est pas possible que sa mère elle soit allemande. Et quand je dis que je suis sauvé par du sang allemand, oui, bon.
La classique.
Ça, on n'y arrive pas. Alors que c'est lui qui m'a inculqué ces belles, ces valeurs qui me tiennent tant à cœur, et bien sur son sujet à lui, il n'y arrive pas. Donc ça revient à tout ce qu'on disait. Le fait d'écrire le livre, de prendre la distance et de raconter même sa propre histoire, même si on invente un peu des choses, permet de prendre du recul. Et maintenant, je ne l'ai pas convaincu, alors c'est pas mon but, mais il y a un humour différent maintenant sur la question, parce que le nombre de fois où j'ai dit à mon père, il disait « Ouais, les Allemands, les nazis. » Je dis « Non, les Allemands, les nazis, c'est pas la même chose. » Il y en avait beaucoup, mais ils n'étaient pas tous. Alors que c'est lui qui m'a appris la nuance. Et ce livre a permis de retravailler là-dessus, même de son côté.
Vous, Renan Luce, alors justement, je vérifiais tout à l'heure, le livre est marqué en document, témoignage, donc ce n'est pas un roman. Est-ce qu'au moment de l'écrire, vous étiez vraiment dans une exigence de coller au plus près de la réalité, même si Mathias l'a dit, il y a toujours une question d'interprétation et de point de vue. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a trotté de dire, ok, il faut quand même que je sois dans l'exactitude des faits et des histoires que je raconte?
Oui, nécessairement. Non. Effectivement, j'aurais pu avoir un autre prisme, mais j'ai choisi celui du un peu du précipice. Quoi. J'avais le sentiment d'être devant une forme de précipice, d'inquiétude et de non-dit. Et à force de m'y pencher, j'ai eu envie quand même d'aller voir ce qu'il y avait au fond. Donc j'ai choisi la chute directe dans le sujet. Dans les souvenirs, en essayant de m'agripper à des sensations, des sentiments un peu diffus, mais que je voulais les faire ressurgir. J'ai toujours eu l'impression d'être quelqu'un sur lequel les souvenirs glissent un peu. J'ai des amis ou des connaissances qui ont une mémoire folle de ce qui leur est arrivé. Moi, parfois, j'ai l'impression de pas me souvenir. En fait, les choses glissent, elles sont déjà derrière. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait vrai parce que petit à petit, avec cette petite marche arrière de revenir dans le passé, j'ai ressenti des choses que je croyais enfouies, mais qui étaient quand même toujours là. Des douleurs, des rayons de soleil, voilà.
Et puis pardon, je rebondis juste. Moi par exemple, quand j'ai écrit Journal d'un vampire en pyjama, ça venait de m'arriver. Alors j'ai inventé un personnage imaginaire métaphorique Damoclès, qui était donc une espèce de femme très très belle qui était en fait l'incarnation de la mort et qui était attirante, mais c'est une métaphore. Mais le reste, j'étais comme toi. Là en fait, pourquoi en fait j'ai pris autre chose? Parce que mon père avait 4 ans. Donc c'est vraiment du souvenir de souvenir. Et au début, je l'ai écrit à la troisième personne au passé. Et j'étais beaucoup plus scrupuleux sur vraiment ne pas rajouter de choses. Et c'était mou. Et ça marchait pas. Enfin, à mon sens, en tout cas. Et en fait, j'ai trouvé la fameuse musique du livre quand je me suis dit, bon, c'est lui qui va écrire à sa mère une lettre sur son cahier de maths qu'il n'utilise plus parce qu'il peut plus aller à l'école. Donc 4 ans, c'est trop petit, donc je lui fais avoir 9 ans. Donc déjà, mini trahison.
Pour la bonne cause.
Et joyeuse, vous savez, les mini trahisons, c'est pas faire du mal aux gens, c'est ce fait de, par exemple, quand un copain vous dit que absolument vous allez, il veut que vous alliez à telle soirée, mais que vous avez envie de rester chez vous, regarder un match de foot parce que c'est mieux pour vous. Et ben, des fois, c'est une mini trahison, mais il faut le faire. Et là, pour ce livre, il fallait que je mini trahisse, mais parce que le temps avait fait son affaire. Je pense que je raconterai quelque chose qui vient de m'arriver plus tôt, comme c'est ton cas. Je ferais pas la même chose. Ou alors, si mon père effectivement avait vécu ça à un autre moment, ce serait pas la Deuxième Guerre mondiale, mais je sais pas, ce serait la guerre d'Algérie ou un truc plus proche, avec plus de matière de souvenirs. Là, en fait, j'avais des graines magnifiques qui me plaisaient énormément, et mon boulot de romancier, c'était de les faire pousser.
Et vous parliez du précipice justement parce que le fait de se confronter directement et en plus avec une forme de réalisme à son histoire familiale, c'est justement comment dire, de faire que les autres sont aussi acteurs un petit peu avec vous de ce livre. Est-ce qu'il y a eu des échanges, comme Mathias a pu avoir avec son père, mais des échanges avec les autres membres de la famille pour discuter de tel événement que vous alliez raconter? Est-ce que c'est...
Oui, je l'ai pas mal fait. J'ai essayé de le faire un peu discrètement parce que je voulais pas qu'ils aient l'impression que je les interviewe, quoi, pour écrire. Mais oui, je pense qu'ils ont quand même senti parce qu'ils savaient que j'étais en train d'écrire un récit. Mais par téléphone, souvent, je posais une petite question sur le passé. Mais c'était quelle année ça? Et dans quelle école on était à ce moment-là? Enfin, voilà, j'ai eu besoin d'avoir ces petits repères un peu précis. C'est simplement moi pour m'agripper à quelque chose de solide, quoi. Que la cabane, elle tienne bien. Et que je puisse au milieu aller chercher les sentiments un peu plus flous. Je trouve que j'avais quand même besoin de ce cadre un peu précis. Il y a eu aussi un autre matériel que j'ai utilisé. C'est mon frère qui est également romancier, a écrit un livre il y a quelques années dans lequel il avait besoin de matériel justement sur l'histoire familiale. Et il a demandé à mes parents d'écrire chacun à leur tour leur souvenir de la naissance de notre sœur, qui est donc l'aînée. Et donc chacun a écrit un texte qui est d'ailleurs magnifique, qui nous a fait fondre en larmes, mon frère et moi, quand on les a reçus. Mais ça, je m'en suis aussi servi de cette émotion-là, que évidemment je ne connais pas. Mais j'ai essayé de m'agripper toujours à ces... Enfin, quand j'imaginais mes parents, essayer de m'agripper toujours à cette émotion qu'ils ont su retranscrire dans ces deux lettres qu'ils ont chacun écrites. Ça me permettait voilà, de penser être, enfin, d'essayer d'être le plus honnête possible avec leurs propres émotions.
Avec aussi, je trouve qu'il y a quelque chose en commun chez vous, à la fois dans vos chansons et dans vos livres, c'est l'idée de, ok, peut-être qu'on raconte des réalités qui sont parfois douloureuses, qui sont parfois joyeuses, mais il y a toujours un point d'honneur à mettre de la poésie dans tout ce qu'on fait. Est-ce que c'est pour vous la poésie un peu un horizon qui est important dans votre vie?
Bah, je sais pas, c'est peut-être notre musique intérieure, hein, qui fait que quand on prend la plume, le clavier d'ordinateur ou une guitare, il y a quand même eu une volonté d'enchantement, d'un truc un peu plus grand que nous, plus mystérieux aussi, de se laisser surprendre. C'est ce que j'aime moi dans l'écriture de chansons, c'est que c'est ultra codifié dans les pieds, les rimes, machin, mais en même temps, ça, du coup, cette codification, tout à coup, elle amène des accidents qui m'amènent beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Et j'essaye de retrouver ça aussi dans l'écriture d'un récit comme ça, parce qu'il y a aussi un rythme, il y a tout à coup un vocabulaire qui émerge, qui me donne des images et qui amène ailleurs. C'est un peu se laisser harponner aussi par l'écriture. Moi, j'aime bien cette idée voilà, qu'on maîtrise pas tout ce qu'on va écrire, il y a des petits accidents qui font que je peux me relire et me dire, bah, tiens, je ne pensais pas que j'aurais pu écrire ça. Je suis bien loin des premières lignes de ce matin. La journée a passé, je suis arrivé à totalement autre chose, une autre couleur, une autre palette.
Ça vous parle, ça, Mathias Malzieu?
Complètement, complètement. Et puis c'est vrai qu'j'ai l'impression que ça s'améliore un petit peu, mais il y a une espèce d'a priori sur la question de la poésie. Comme si c'était une fuite, le poète, c'était, ah lui, c'est un poète, c'est le mec, il est à côté. En fait, non, le poète, c'est celui qui se, c'est l'aventureux, c'est l'aventurier, l'aventureux. C'est celui qui va chercher de l'ultra-vie. Le poète, c'est pas celui qui juste fuit le réel dans les nuages. y a le poète aussi qui descend des nuages et qui embrasse la terre et la vie complètement et qui va voir chaque couleur, comme tu disais, qui va tout ressentir, plus ressentir, et qui va se faire traverser. Et c'est ça la poésie. C'est pas forcément juste une espèce de vieille tradition, une vieille. Ça fait presque prétentieux. On se dit poète, oulala, ça va être chiant. Alors que non, en fait, le rapport poétique au monde, c'est ce que disait Renan. C'est-à-dire, c'est déjà avoir le goût de l'accident, avoir suffisamment d'humilité pour accepter de recommencer, d'avoir un échec, de se tromper, et tout ça. Et c'est là qui crée les accidents. On peut appeler ça le processus créatif, la poésie, ce qu'on veut, mais c'est au cœur de ça. Alors la poésie, c'est pas juste écrire une jolie phrase ou trouver une petite métaphore filée. Moi j'ai une métaphore qui marche bien pour ça. Je fais un peu de surf, mais très mal parce que je suis pas du tout né au bon endroit. Mais il y a des fois quand on pédale pour aller vers une vague, et ben on a un peu peur. Et on pédale, on fait semblant de pédaler. Et hop, on l'a pas pris, on fait « Ah, je l'ai raté. » Mais en fait, t'es là. Putain, et si tu te regardes un peu droit, tu dis « Mais t'y es pas allé, enfoiré. » Et des fois, t'y vas et tu l'as pas quand même. Et tu prends une machine à laver de dingue et tu te fais éclater. Mais c'est pas grave. Mais il y a des fois, t'y vas et t'y vas vraiment. Et écrire, il y a des moments aussi où t'écris un peu et c'est un peu joli, et ça sonne bien. Et puis, il faut arriver. Et le courage et la vraie poésie, c'est le moment où tu fais, ou quand tu te relis, tu t'es auto-arnaqué là, t'as fait le truc un peu machin, crac, t'y vas. Et que ça soit pour inventer un géant qui marche sur le toit des maisons, ou que ça soit pour être ultra réaliste, peu importe. C'est l'espèce d'honnêteté avec soi-même qui crée à mon avis la poésie, parce que c'est vraiment la vraie poésie du soi-même. Et comme on est tous multiples, est différent, et ben quand on est vraiment en phase avec soi-même, ça crée une poésie. C'est pas un espèce de truc d'intellectuel étrange qui se met dans des états bizarres. Ça peut, hein, chacun son chemin, mais c'est pas que ça la poésie, je crois pas.
Et quand on se cache derrière un personnage, justement, par exemple un enfant de 9 ans, justement, on se permet aussi de se lancer sans trop s'exposer.
Oui et non, parce que je pense vraiment que ça, c'est comme on est des acteurs en fait quand on est des romanciers. On doit pouvoir être une dame de 80 ans, d'une autre couleur, d'une autre sexualité, d'une autre culture, comme un comédien. Je regarde en ce moment une vieille série qui s'appelle Six Feet Under, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et j'étais curieux parce que, par exemple, il y a un couple homo, et il le joue tellement bien, j'ai regardé s'il ne l'était pas. Et pas du tout. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. D'ailleurs, moi je trouve ça, c'est une petite parenthèse, mais terrible en ce moment que voilà, y a une super poétesse noire, il faut que ça soit un noir qui traduit. Enfin, je trouve ça absolument affreux. Ça, je pense que Romain Gary doit se retourner dans sa tombe. Mais moi je trouve ça extrêmement joyeux, et c'est un des apparats de l'écrivain, c'est de se mettre dans la peau de manière complètement illégitime. Même si c'est mon père. C'est complètement illégitime de me mettre dans la peau de mon père qui, en fait, avait 4 ans, mais je lui en donne 9. Et puis, j'étais même pas une idée de spermatozoïde à l'époque. Je n'ai aucune légitimité, si ce n'est mon désir de raconter une histoire et un amour puissant qui me donne envie de raconter cette histoire. Mais peu importe que c'est vrai ou que c'est faux, finalement.
Renan-Lu, justement, je voulais vous demander, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé avec du recul de cette expérience d'écriture? Et puis, question en deux parties, justement, est-ce que ce côté personnage, ce côté fiction pure, ce côté s'échapper un peu de la réalité, ça, c'est quelque chose qui pourrait vous tenter ?
Bah alors, du coup, je commence à répondre par ça. Bah, c'est vrai que ça a ouvert un peu une porte, celui du souffle un peu plus long dans l'écriture, que j'ai trouvé très agréable, j'avoue, avoir passé des moments que j'ai adorés, alors parfois un peu douloureux, quand le sujet m'amenait un peu à cette douleur. Mais en même temps, très rassurant, c'est une espèce de bulle très intime dans laquelle j'ai accepté de me plonger tous les matins pendant quelques mois. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, évidemment, je me pose cette question de continuer, de revivre ça. Et oui, l'idée de la fiction me trotte aussi. J'aime toujours, évidemment, raconter des histoires, trouver des personnages, des situations, quelque chose qui me décrit, mais en même temps qui me dépasse aussi un peu. Je serais très curieux de voir où ça m'amènerait. Donc, pourquoi pas. Mon père, il dit souvent, je ne me l'interdis pas. Alors, je dis comme lui, je ne me l'interdis pas. Je ne sais plus quelle était la première question. Mais...
Bah non, mais c'était parfait.
J'ai tout dit.
Deux en un, c'est un bingo.
Voilà.
Et puis, peut-être, dernière question, on a parlé de prévenir la famille au moment du projet. Et la famille, une fois que le livre est fini, comment votre entourage a perçu tout ça ?
Alors, ils ne se refont pas. Ils sont quand même assez pudiques. Et donc, je n'ai pas eu des effusions comme ça de réaction, mais des petits messages. Enfin, à part mon frère, on a cette complicité quand même peut-être un peu plus quotidienne qui fait déjà que je lui ai envoyé beaucoup plus en amont le livre aussi parce qu'il a cette expérience et que j'étais curieux d'avoir... voilà. Donc là, on a beaucoup plus parlé. Avec mes parents et ma sœur, j'ai reçu des petits textos un petit peu frileux comme ça, mais en même temps très mignon. Je crois qu'ils avaient à cœur de me donner une sorte de validation, ce qui m'a bien arrangé parce que le livre était déjà imprimé. Donc j'étais quand même content qu'ils me disent que je pouvais le faire.
Au moins ça s'est fait.
Voilà. Mais j'ai vraiment procrastiné énormément avant de leur envoyer. Enfin, mon père m'avait dit je l'achèterai, je préfère que tu ne l'envoies pas tout de suite. Ma mère voulait le lire avant. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Comme plein d'actes, des actes manqués répétés tous les jours au lieu de lui envoyer. Voilà. Mais néanmoins, non, ils ont salué l'entreprise de vérité un peu. Voilà, mon père m'a écrit très simplement et j'ai bien aimé qu'il m'écrive ça. Il m'a écrit tout est vrai. Bon, ça veut un peu rien dire, mais en même temps, ça m'a fait plaisir. Comme si ça voulait
ça
dire. Oui, ça veut dire.
C'est reconnu.
Voilà, on est là, quoi. On est dans le livre. Donc ça m'a touché.
Et puis le temps va faire son affaire aussi là-dessus.
Certainement.
Et vous, Mathias Mazieu, je suppose que quand on écrit sur un membre de sa famille, qu'on en fait un personnage, on l'a forcément tout le temps en tête. Est-ce qu'il vous a accompagné tout le temps comme ça le...
Oui, je lui racontais ce que je faisais. Notamment, je lui racontais tout ce que j'inventais. Notamment dans cette fameuse ferme où il était caché, en zone occupée. Il y avait effectivement des résistants qui étaient cachés dans l'épicerie, mais l'épicerie était à 3 km. Comme moi j'avais envie, donc il n'a jamais vu les résistants. Il était bien protégé de tout ça, et il l'a su que bien plus tard. Moi j'avais envie qu'il ait un contact avec ces résistants, que finalement j'en ai fait un personnage qui connaissait sa mère, etc. Ça c'est vraiment le truc de fiction que j'ai inventé. Et à chaque fois que je lui redisais, ouais, l'épicerie, en fait, je l'ai collé à la ferme pour que le soir, quand tu te promènes et que tu vas écouter aux portes, tu puisses découvrir l'existence de ces personnages cachés, que tu puisses rentrer en interaction. Et voilà, c'est mon père qui télépathiquement envoie des messages. Et en fait, il a fallu jusqu'à... Parce que moi, je lui ai donné... 60 premières pages, pas à toute ma famille, mais à mon père, c'était son personnage, c'était lui en couverture du livre, c'est vraiment une photo de lui. Mais voilà, par exemple, ça c'est une photo de lui, mais de lui à 10 ans. Donc c'est une photo du personnage. Parce qu'en fait, là c'est lui à l'école après la guerre, et j'ai mis des étoiles derrière. C'est vraiment, ça dit bien le côté roman. Mais tant qu'il a vu le livre en comme ça, pas sur ordinateur, mais en tout cas en petit texte relié, et ben encore, il dit, oui, mais ça, c'est pas vrai, machin truc. C'est super, mais c'est pas vrai. Le jour où il a eu le livre en vrai, en fait, déjà, il m'a envoyé une photo avec le livre, comme ça. Plus du tout la même tête. Et puis, il a lu une première fois, un truc un peu sobre. Et puis, un mois et demi plus tard, mais pareil, il y avait eu la grande librairie, il y avait eu des trucs comme ça, des gens qui lui en avaient parlé. C'est pas pareil, il y a une dimension autre. Il l'a relu et il m'a dit, bon, j'ai relu le livre, j'ai pas arrêté de chialer et d'éclater de rire. Donc là j'avais plus du tout aucune pression sur la promo et tout. En fait, ça, j'avais une pression supplémentaire parce que je le portais, et là tout d'un coup il y a eu un ça m'a complètement soulagé.
C'est touchant en tout cas. C'est des histoires, quand on écrit sur nos proches, forcément ça crée des connexions inattendues. Ah oui.
C'est ce qu'on cherche un peu en même temps.
Oui. Je pense qu'on peut prendre une ou deux questions. On a le temps pour une ou deux questions si jamais vous avez envie de leur poser quelques questions. C'est toujours la première, la plus difficile.
Moi j'ai une petite question. Qui c'est qui a éteint le chauffage?
C'est les économies, hein.
C'est vrai qu'il n'est pas chaud, hein. C'est...
Non, allez, pas de question. Faut se lancer. Après, ça peut vouloir dire qu'on a été bon aussi. Hein.
Oui, oui.
Bon, bah très bien. Et eh ben, on va finir
là-dessus.
Voilà,
j'ai envie de dire, c'est un beau silence. C'était très beau.
Merci à tous les deux.
La plus belle non-question de l'histoire des non-questions.
C'est ça. Merci à tous les deux.
Ah, on a une question. Bravo, monsieur.
Bravo, monsieur.
Il y en a une.
Sans micro, en plus pas.
En dehors de la matière littéraire que vous avez évoquée, enfin sur la façon d'écrire vos romans et puis votre récit, plutôt sur la composition de votre façon de composer, je voudrais savoir si vous composez d'abord la musique ou si vous travaillez à partir d'un texte.
Je commence.
Vas-y, vas-y.
Oui, alors, c'est-à-dire que moi, enfin, je fais tout, hein, dans tous les sens, c'est un puzzle, un vaste bordel. Si ce n'est quand même que j'ai besoin d'une petite. Au moins d'une phrase d'amorce, c'est quand même très rare que je me lance dans une musique sans avoir le moindre mot à disposition. Ça m'est arrivé, mais c'est assez rare. Et en général, c'est quand même deux choses qui sont très conjointes. C'est-à-dire une phrase appelle une phrase musicale qui appelle une autre phrase. Et je fais un peu tout en même temps. Voilà.
C'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas,
c'est la marque
c'est
des champions.
Pas pour être feignant, c'est juste que... Que c'est pareil, ça m'arrive jamais de partir sur un comme ça en musique avec pas de texte, ni d'écrire un texte totalement et d'essayer de mettre la musique. C'est un puzzle, comme tu disais, c'est-à-dire que j'ai avoir envie de je sais ce que je veux raconter, en gros, même s'il y a les accidents ensuite. Donc j'ai envie d'une atmosphère, donc je commence à faire des accords, de trouver une mélodie, l'atmosphère me plaît pas, je bouge le texte, donc ça m'amène à quelque chose. Et en fait, c'est chemin faisant. Mais ça se fait vraiment en même temps, avec un petit escalier comme ça, un petit passage de relais entre la musique et les mots, mais jamais séparés, quoi. À part, ça m'est arrivé une ou deux fois où j'avais écrit des poèmes pour ma compagne. Là, c'est pour le dernier disque dont tu évoquais tout à l'heure. Où là, des fois, il y avait des poèmes. Et là, eh ben, j'ai pris les poèmes et je les ai adaptés. Alors là, oui. Mais pareil, je les ai pas, j'ai pas essayé de les rentrer aux chausse-pied. Je les ai adaptés, je les ai modifiés pour que ça devienne des chansons.
Bon bah là je crois qu'on avait notre courageux.
Ça a ouvert le truc là, ça y est la boîte de Pandore.
On en prend une dernière parce qu'après
là c'est comme dans les booms quand il y en a un qui commence à danser, il y a tout le monde qui se lève.
Exactement.
Moi j'aimerais savoir si à la fin de l'interview, si l'auteur va se jeter dans la foule comme le fait le chanteur.
Allez. Évidemment, c'est prévu.
Il faut quand même un peu de détente, hein.
Ça m'est arrivé, pas sur une interview où on est posé comme ça, hein, parce que c'est pareil. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je fais aussi dans un groupe de rock où j'ai tendance à être assez énergique sur scène. Et y a des gens qui me disent, qui me voient là, ils me disent « Oh, mais t'es hyper calme en fait !» Imaginez l'enfer si j'étais tout le temps à me jeter partout. Enfin, heureusement, quoi, que c'est comme... Mais c'est un truc de super-héros, ça. Les super-héros, c'est bien d'avoir le costume, de faire comme ça, de sauver des gens. Et après, c'est bien d'aller descendre la poubelle aussi, pas avoir le melon tout le temps. Donc, c'est bien de vivre à plusieurs niveaux. Et là, je suis content de faire cette rencontre avec Renan, de vous parler, de me cailler un petit peu les miches quand même. Et je suis content de faire ensuite, l'année prochaine, de me retrouver sur scène et peut-être de me jeter dans la foule si mon vieux corps me le permet encore.
Je vous remercie, merci à vous.
Merci à vous tous. Merci Mathias.
Et bien sûr, vous pouvez retrouver les auteurs sur leurs stands respectifs pour signer.